Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau Comicity spécial, épisode numéro 12.
Déjà.
Cette fois-ci, comme toujours, on s'intéresse à une série en particulier, liée un petit peu avec l'actualité, puisque le nouveau tome sort en France au mois de mai. On enregistre au mois de mai, ce sera diffusé au mois de juin, mais voilà. Le tome sera sorti depuis pas très longtemps.
Ça restera dans l'actualité.
Voilà, peut-être sera-ce l'occasion pour vous de vous mettre à cette série.
Ou pas.
Et donc, cette fois-ci... Ou pas, ouais.
Je confirme.
Mais
ça commence bien.
Et donc, cette fois-ci, avec moi, donc, Claire.
Bonjour, bonjour.
Honneur aux dames, quand même.
Ouais, pour une fois.
Dame, dame, c'est vite dit.
Ouais, hein.
J'aurais plutôt dit enfant du diable, mais... Sam.
Salut.
Et Nono.
Bonjour les enfants.
Le responsable de ce choix éditorial.
Voilà.
Oui, voilà.
Et donc, envers qui Sam a une grosse dent maintenant?
C'est fini les
deux. Oui, j'ai ressorti mes poupées vaudou et... et j'enfonce des aiguilles. Des aiguilles à tricoter, je précise.
Si jamais vous ne voyez plus de double Unspoken, c'est parce que l'un des deux a tué l'autre.
Voilà.
Mais il manque pas quelqu'un, là?
Ah non.
Non. Là, il y a les fans, tu sais, qui sont... Mais Penny, il est où, Penny? C'est Black.
Et Penny a décidé de quitter comme City.
Après avoir lu, en fait, ce fiasco, là, Penny s'est dit non, c'est pas possible.
Je peux participer à ça.
Penny a décidé de nous lâcher, honteusement, parce que sa Freebox ne marche pas.
Ouais,
je ne comprends pas ce retournement de situation.
Quoi.
Voilà, il aurait pu aller chez McDo, profiter du Wi-Fi là-bas, mais non, il ne veut pas.
Non, non.
Il l'aurait fait exprès, il l'aurait pas fait autrement.
D'ailleurs, c'est je ça. Me demande si McDo n'est pas fermé, puisque nous sommes un dimanche férié.
Ah oui, c'est vrai, on est férié aujourd'hui.
Non, McDo, ils sont ouverts tout le temps.
T'en fous des jours fériés.
Oui, ah, ouais, le seul jour où McDo ferme, c'est le 1er janvier, il me semble.
Même pas le 1er mai?
Non. Quand j'y bossais, je me souviens avoir bossé un 1er mai chez McDo.
D'accord.
C'est quoi ces esclavagistes,
hein? Bah non, t'es payé double. Tu vas pas te plaindre non plus.
Quand même.
on a senti l'hésitation de ça, mais il y a un payé double quand même, merde.
Ouais, quand même. Oui, le quand même est à double sens.
C'est pas comme si tu loupais un repas.
Bossais quand même un 1er mai, mais bossais payé double, hein, quand même.
Donc vous aurez compris, c'est un débat sur McDo aujourd'hui.
Tout à fait. Voilà. Pour, contre, McDo.
On avait dit, c'était un choix éditorial de Nono, hein, puisqu'il a travaillé à McDo, il nous a dit.
Non, en fait, McDo. C'est une tentative de diversion que j'essaye de mener pour éviter qu'on en parle.
Oui, donc, oui, Benny est absent pour cause de problèmes internet, mais espérons pour lui que la situation arrive à une résolution rapide, parce que sinon, les podcasts, ça va être dur. On va peut-être attaquer le thème du spécial. Et donc, bah, puisque c'est un choix éditorial de Nono, eh bien, je vais le laisser nous présenter la série.
Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la série Dark Tower, adaptée des romans de Stephen King, donc qui ont été adaptés en comics il y a déjà quelques années maintenant.
Oh merde, c'est pas ce que j'ai lu. Moi, j'ai lu Dark Tower de John Kovalik.
Ah non, oui, moi, j'ai lu Dirty Tower, moi. Attention, c'est pas.
Non, bon, bah, pour ceux qui connaissent pas Dark Tower, c'est un strip humoristique sur les jeux de rôle.
Et Dirty Tower, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer.
Oui.
Putain, j'aurais dû lire ces trucs-là, ça aurait dû être plus intéressant.
Excuse-moi de t'avoir coupé avec ma vanne miteuse.
Non, mais c'est pas. Tu nous avais prévenu avant que t'allais la faire. Donc... <C'est bon. rire> Je l'attendais impatiemment. Donc oui, donc Dark Tower, une série qui a une méthode de parution un peu différente des autres séries, parce qu'elle n'est adaptée qu'en mini. Il y a à l'heure actuelle deux arcs principaux, on va dire. Un qui est fini, qui se compose de 5 mini-séries, et un autre qui est en cours, où ils attaquent la deuxième mini-série.
Bien, je n'ai rien compris.
Et nous, on a lu les trois premières mini-séries.
Ce sont des arcs de mini.
Voilà.
Oui, ça, j'avais compris, merci. Mais le fait que ce soit une ou deux histoires complètes, là, j'ai un peu de mal.
Mais c'est-à-dire que nous, on a lu une partie du premier arc.
Ouais.
Oh, mon dieu, parce que il y a tout ça après.
Oui.
Oh là là.
Ah, mais tu te rends compte de la torture, quoi.
Oui, donc, j'aurais compris.
Mon pauvre Nono, c'est mes eux.
Mon pauvre Nono.
Voilà. Donc, j'ai choisi, cette fois-ci, pour ce spécial, cette série, parce que c'est une série que je je suis. C'est l'une des premières séries d'ailleurs que j'ai suivi en comics. Vu que vous le savez, je suis assez récent dans le monde du comics, et c'est grâce à, on va dire, à Dark Tower que je suis arrivé dans le vrai comics américain, en fait.
Mm-hmm. Ça les laisse dubitatifs. Hein,
non, mais ouais. Je me mords les lèvres pour pas rire, en fait.
Non, c'est un peu bizarre parce que je comparais pour Steve aussi. Nous, on a tous commencé par Spider-Man à un moment, donc.
Oui, mais non, c'est j'ai attaqué étant fan depuis plus de 20 ans de Stephen King, et ayant.
C'est dire si Nino est vieux.
Voilà.
Ça c'est fait.
Je ne dirais pas. J'ai attaqué. Je suis peut-être le plus âgé du duo là, donc.
Non, c'est moi. Ah. Je suis plus vieux que toi, Sam.
Tant mieux.
Oh bah. Ça c'est
fait aussi. Le podcast.
Tu démarres super bien.
Ils vont se foutre sur la gueule avant la fin, je pense. Hein.
Mais oui, il m'a forcé à lire ce truc là. Il va s'ouvrir, c'est comme ça.
Ça va être fun, je sens.
Voilà, je vais arrêter de parler maintenant.
Ah bon, voilà, on va pas trop parler.
De quoi ça parle quand même, Dark Tower?
Donc en fait, Dark Tower, donc comme je disais, c'est l'adaptation du roman éponyme de Stephen King. Donc le roman se divise en 7 tomes. Ça raconte en fait la quête d'un pistolero en français, donc d'un gunslinger en VO, qui en fait recherche la tour sombre parce qu'il vit dans un monde en délabrement, et le fait de trouver la tour sombre apparemment pourrait aider à remettre le monde dans le bon sens, si je puis dire. Donc ça se passe dans un monde parallèle qui a beaucoup de similitudes avec le nôtre, mais dans le comics en lui-même, ça se passe, ça fait un peu western spaghetti. Je sais pas si vous avez retrouvé un peu ce truc là.
Tu dirais pas western spaghetti?
Ah non, pas western. Moi, je dirais dark western, hein, plutôt.
Ouais, dark western.
Ah, c'est pas et, comme ça que j'avais donc... compris l'histoire.
En fait, c'est l'histoire d'un homme qui cherche la tour sombre, et dans le comics, dans ce premier arc, ça nous raconte sa jeunesse, comment il est devenu pistolero, comment il a acquis ses armes, comment il est devenu l'homme qui est décrit dans les bouquins.
D'accord.
Mm-hmm. C'est très intéressant. Je sens que ça va être passionné, voilà. Hein, ce débat là.
Ah ouais, non mais.
Enfin, vu que tu es fan de Stephen King, tu peux peut-être raconter un petit peu comment s'est passé l'écriture du roman. Il y a eu quand même quelques soucis.
Voilà.
Les fans ont attendu très longtemps les romans.
Ouais, en fait, Stephen King a commencé à écrire La Tour Sombre dans les années 70, et c'était un truc qu'il a toujours voulu écrire. C'est un Il décrit en fait la Tour Sombre un peu comme son Seigneur des Anneaux à lui. C'est-à-dire que Tolkien a tout axé autour du Seigneur des Anneaux. Beaucoup de ses bouquins sont axés autour du Seigneur des Anneaux. Et Stephen King, quasiment tous ses bouquins ont un rapport avec la Tour Sombre. C'est-à-dire que dans quasiment chaque bouquin de Stephen King, il y a une référence cachée à la Tour Sombre. Plus ou moins explicite dans le bouquin. C'est-à-dire que le méchant de la Tour Sombre, c'est un méchant très récurrent dans tous les livres de Stephen King, sous un nom différent mais avec toujours les mêmes initiales. On retrouve certains des protagonistes dans d'autres romans avec plus ou moins d'importance selon le livre. C'est vraiment en fait il le décrit comme étant son système solaire de toute son œuvre littéraire.
Et c'est marrant parce que je trouve que bon, j'ai pas tout lu de Stephen King, hein, loin de là, mais par rapport au reste de ses romans, c'est quand même celui qui est le plus en marge des autres,
oui.
Je trouve.
Oui, parce que c'est pas du tout un roman, La Tour Sombre, c'est pas du tout un roman d'horreur.
C'est beaucoup plus de la fantaisie, quoi.
Voilà. C'est beaucoup plus de la fantaisie que de l'horreur. On est vraiment dans un univers à part. Il a vraiment créé un truc qui n'existait pas. Et il l'a bâti de toutes pièces. Et voilà.
Mm-hmm. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, ça m'éclaire.
Oui. Alors bon, ben, je vais commencer direct. Hein. Je vais faire mon coming out littéraire. Je n'aime pas Stephen King. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc déjà,
et j'ai essayé de lui en faire lire pourtant.
Ah ouais, j'ai essayé, hein, mais y a pas moyen. J'accroche pas du tout à sa manière d'écrire. Donc c'est pas les sujets, hein, c'est vraiment la forme qui ne m'intéresse, que j'accroche pas.
Attends, je vérifie juste un truc. Nono, tu es là? Ou c'est bien ce que je pensais, il est en train de faire une crise cardiaque.
Oui, voilà,
tu viens d'insulter un de ses auteurs favoris.
Non, mais...
je peux comprendre qu'on aime pas Stephen King, il a un style littéraire bien à part. Ouais. Une manière sur ses romans qui combat, voilà, s'il a du succès, c'est également qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Et je peux comprendre qu'on aime pas Stephen King, j'en connais beaucoup qui ne les aiment pas. D'ailleurs, ces gens-là, je ne leur parle plus depuis longtemps. Mais voilà.
Estime-toi heureuse, Claire. Tu es la seule.
Oh là là.
Ils ont mystérieusement disparu, d'ailleurs, les amis en question.
Ouais, t'es juste de la peut-être la femme du chef, quoi.
C'est ça. Et d'être la seule fille du podcast.
Voilà aussi.
Une fille, ça peut se remplacer. La femme du chef, un peu moins. Ouais.
Je me souviens qu'on en avait parlé il y a quelques temps, Claire, que t'aimais pas... Moi, je t'avais conseillé justement de lire La Tour Sombre, et tu m'avais dit que t'aimais pas du tout ce style d'univers, etc.
Non, vraiment pas. Donc, ce qui fait que du coup, quand j'ai su qu'il fallait qu'on fasse ce comics, vu que chacun a choisi un comics qu'on aime bien pour un spécial, donc là, voilà, Nono, normal, enfin, je veux dire... Il présente le sien, je le lis, c'est normal. Il va lire le mien, il va pas aimer, donc c'est normal. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai su que c'était du Stephen King et tout, déjà je partais avec un bon a priori, on va dire. Et il m'a pas déçu, hein. C'est-à-dire que voilà, je m'attendais à quelque chose
que
je n'aimerais pas.
Déception.
Voilà, et ça a été quelque chose, voilà. Vraiment, j'ai pas aimé.
Ah, je vais juste resituer le contexte pour le spécial précédent, au cas où vous ne l'ayez pas remarqué. C'était le comique de Sam.
Oui, voilà.
En fait, tout le monde a aimé.
Sauf Benny. De mémoire, Benny n'avait pas trop accroché.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas là, hein, puisqu'il n'avait pas aimé.
Voilà, oui,
je l'ai. Voilà. Donc, vous savez ce qui vous attend dans le prochain spécial.
À ce moment-là, vous n'allez pas être très nombreux pour le prochain spécial, je pense.
Ah non, ouais. C'est juste, tu n'es pas là pour le prochain match, et après, tu reviens.
Voilà.
Bon, Sam.
Ben, de mon côté, moi, j'avais jamais lu de Stephen King, donc j'avais pas d'a priori particulier. En plus, quand j'ai vu sur la couverture rédigée par Peter David et dessinée par Jay Lee, je me suis dit ça commence bien, ça part bien, et puis je l'ai lu et c'est vite retombé. Disons que c'est le problème, c'est que scénaristiquement parlant, c'est très lent, je trouve. C'est le style littéraire est très lourd, je trouve.
La narration est très très lourde.
En plus, il y a cette habitude, en fait, du narrateur de s'adresser directement au lecteur que personnellement j'apprécie pas du tout.
Moi non plus, j'ai pas du tout aimé.
Là, j'ai l'impression, voilà, qu'il navigue entre le fait de parler au lecteur et de raconter l'histoire, et il arrive. J'ai l'impression à un certain moment, il arrive pas bien à se situer. Donc déjà.
Mais c'est ça en fait. Il raconte. C'est vraiment un narrateur qui raconte l'histoire et qui essaye de se mettre en fait à côté du lecteur. C'est-à-dire qu'il lui dit, regarde ça, tu vois, il se passe ça, moi je sais ce qui va se passer, mais je te laisse le découvrir par toi-même, et il accompagne le lecteur, en fait, dans sa découverte de cet univers, parce que le comics, à la base, est fait en plus du bouquin, en plus des romans, donc oui. C'est une continuité, c'est des choses qu'on a pas lues dans le roman, à part le premier arc. Que j'ai le moins aimé, parce que c'est vraiment une adaptation littérale du tome 4 de La Tour Sombre, qui s'appelle Magie et Cristal en VF. Mm-hmm. La suite, les autres mini-séries ne sont pas du tout présents dans les romans. On en parle, c'est suggéré dans les romans, mais là, on apprend vraiment ce qui se passe. Donc, pour les fans, pour ceux qui ont lu La Tour Sombre, c'est des informations supplémentaires. Et pour ceux qui n'ont pas lu La Tour Sombre, c'est une incursion, en fait, dans la jeunesse de ce personnage.
Mais au-delà du style narratif, je dirais, c'est l'univers dans l'ensemble auquel j'ai pas du tout accroché. Ouais. C'est l'histoire, c'est les personnages, c'est vraiment un tout, quoi. Vraiment,
ouais, c'est un tout.
La question qui se pose, pour Claire, je connais la réponse, elle n'est pas fan de fantasy au départ, mais... Toi, est-ce que tu aimes la fantasy, Sam?
Oui, en général, ça me pose pas de problème. L'heroic fantasy, d'ailleurs, j'ai pas vraiment de genre qui me pose problème en genre littéral. Je veux dire, ah non, ça j'aime pas, mais vraiment, là, c'est vraiment cet univers-là auquel j'ai pas réussi à rentrer dedans, et voilà, ça...
De nos discussions, c'est vrai que moi, je t'aurais plus classé en fan de SF qu'en fan de fantasy, en fait.
Un peu tout, en fait. Vraiment, j'ai pas de genre interdit, je vais pas y aller avec un a priori, non, ça je vais pas aimer. Non, vraiment, tant que c'est bien fait et que ça va réussir à me toucher.
Voilà, parce que moi c'est pareil, enfin je suis pas fan de fantasy, mais j'ai lu de la fantasy et il y a des bouquins que j'ai appréciés, enfin, là, enfin voilà, je l'ai lu aussi et justement, j'ai l'impression que c'est un mix quoi, que vraiment il y a pas, il a pris un peu de tout. Il s'est dit, oh, tiens, ça, je vais prendre un truc de quête là, je vais prendre un peu ça. Bon, moi, j'ai lu beaucoup de littérature anglaise et j'ai vraiment l'impression de lire du Shakespeare dans la façon de traiter les informations au niveau familial, au niveau filiation, ce genre de choses. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a pris un peu de tout, qu'il s'est dit, je mélange le tout et tadam, je vous sors mon chef-d'œuvre, The Dark Tower. Et pour moi, tu vois, je sens pas vraiment une patte spécifique que lui seul aurait créée.
Alors attention, là tu ne juges qu'à partir d'éléments qui sont au-delà du roman pur.
Je juge que à partir de ce que j'ai lu. Je ne juge pas par rapport au roman. J'ai bien compris qu'il a créé un univers entier et je vois bien qu'il y a mis vraiment, il y a vraiment du contenu et que c'est un vrai univers, mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait preuve de tant d'originalité que ça.
Ouais, moi, je n'ai pas trouvé ça si riche que ça, franchement. Je pense que c'est dû vraiment à cette espèce d'effet de décompression qu'on a dans la mini-série, parce que les mini-séries sont quand même assez longues, hein. La première fait 7 épisodes, la seconde, je crois qu'elle en fait 5, la troisième en fait 6. Alors que oui. Globalement, je trouve que les histoires auraient pu être racontées en
surtout
deux ou trois épisodes faciles.
Surtout la première.
Sans voilà, et j'ai eu plus l'impression à certains moments que le scénariste laissait de la place aux illustrations de Jay Lee, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a assez peu de composition de pages. C'est vraiment quand j'entends composition de pages, c'est vraiment des cases, un nombre important de cases. On a beaucoup de pages pleines ou de double pages ou des pages où il y a que deux ou trois cases pour justement laisser, je dirais, toute la place à l'illustration de Jay Lee. Et d'ailleurs, c'est quasiment plus un moment du roman illustré que vraiment pour moi un comic book. Hein.
Mais il faut quand même préciser que Peter David n'est pas tout seul au scénario. Peter David n'est en fait que le dialoguiste. Le vrai scénariste derrière tout ça, c'est Robin Firth, qui est l'assistant de Stephen King.
Et voilà, problème, qui est
avoir lu pas mal de Peter David et j'ai pas du tout reconnu son style. Hein.
Robin Firth, c'est ben, comme disait Steve, c'est l'assistante de Stephen King et c'est elle qui est en charge entre guillemets de rassembler tout ce qui existe sur la Tour Sombre. Il y a eu deux gros bouquins qui sont sortis en français en marge des romans. Donc, sont sortis en anglais également, qui en fait sont je trouve pas mon mot, sorte d'almanach.
Ouais, ça s'appelle ça Companion, je crois, en anglais.
Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. C'est des index de tout ce qui se passe sur la Tour Sombre, donc de tous les personnages, de tous les faits, de tous les lieux, voilà, c'est un énorme index de tout ce qui peut se passer dans ce monde, et c'est elle, en fait, qui est en charge de la trame scénaristique des comics.
C'est sans truc péjoratif du tout, hein. C'est le guide du fanboy, quoi.
Voilà.
Mais c'est pas péjoratif, loin de là.
Non.
On aime bien avoir ce genre de choses sur les séries que l'on adore et
voilà, comme là ils ont sorti
roman, si on peut dire, ce genre de bouquin, en tout cas, a remporté un gros succès, j'imagine.
Voilà, et comme ils ont sorti le Survivor Guide de Walking Dead, c'est à peu près dans le même état d'esprit, quoi. C'est un truc qui répertorie tout ce qui se passe dans la Tour Sombre. Donc c'est bien que ce soit elle qui soit en charge de cette adaptation de comics, parce que justement on sait qu'elle maîtrise son sujet.
Oui. Moi, c'était ce que qu'il y ait une certaine cohésion dans l'univers de la Tour Sombre développé par Stephen King, quoi.
Voilà, c'est ça qui me faisait un peu peur à la base quand j'avais appris qu'ils allaient adapter la Tour Sombre en comics, comme ce qui me fait peur avec l'adaptation ciné qui va arriver d'ici quelques temps, dont on parlera tout à l'heure. C'est que justement ce soit développé par quelqu'un qui ait juste lu les bouquins et qui veut faire son truc à sa sauce. Là, c'est extrêmement fidèle au roman, à l'idée des romans, en fait.
Pour la partie graphique dont tu parlais tout à l'heure, Sam, on a Jay Lee, qui est le dessinateur et encreur, si on veut, enfin quoi qu'il y a certaines pages qui ne sont pas ancrées. Et puis on a surtout, il faut pas l'oublier, Richard Dizanov.
Oui, ouais. Ça change beaucoup. Hein.
Qui est le coloriste. Et qui est franchement un artiste sur cette série. Et c'est vraiment, pour moi, un des plus gros points positifs de cette série, ce sont les dessins.
Ah, moi, c'est le seul point positif. Hein.
Ouais, pour moi aussi.
Une beauté à couper le souffle. Et Jay Lee est au sommet de son art dans cette série.
Sur les deux premières mini-séries, je dirais oui. Sur la troisième, je le trouvais un peu plus en dessous. Hein. Il y avait un ancrage plus marqué, je trouvais, plus sombre et je sais pas, c'était moins clair que dans ses précédents travaux.
Ça allait aussi avec le thème de la mini, je pense. Mini qui s'appelle Treachery. Forcément, et quoi. Puis, qu'il soit plus sombre, c'est logique.
Voilà, mais c'était plus, je dirais, il allait plus vers le crayonné. Alors que d'habitude, ouais. Il a un trait beaucoup plus, je dirais, une ligne claire, qui est vraiment d'une finesse incroyable. Et c'est vrai que c'est bien de souligner le travail de Richard Azenoff, parce que d'habitude, il travaille avec un autre coloriste. Je crois que c'est Richard Villa quelque chose. J'ai oublié la fin du nom. Mais ça lui donne, mais il donne un ton beaucoup plus, je dirais beaucoup plus froid en général au trait de Jaili. C'est toujours dans des teintes un peu bleu-noir, je trouve. Alors que là, dans la série, Richard Azenoff donne un ton beaucoup plus rouge-orange.
Ah oui, ouais, plus chaud. Rouge.
Qui,
ouais.
Qui est très marqué.
Ouais. C'est vraiment la troisième,
en fait, du monde.
C'est qui, beaucoup qui moins marqué dans cette troisième mini-série. Les teintes rouges ont disparu dans la troisième mini.
On est beaucoup plus dans le noir.
D'ailleurs, la première page de la troisième mini-série te le montre. Tu ouvres et tu vois sur un ciel bleu avec des enfants qui jouent. Et moi déjà, visuellement, la première page de la troisième mini m'a choqué. Un ciel bleu, c'est j'avais l'impression qu'on avait tout le temps un ciel rouge depuis le début dans Dark Tower. Mmh. Et donc rien que visuellement, on a un choc et on se dit « Ah, ça change, il y a quelque chose qui va changer dans cet épisode. »
Mais disons qu'en fait, quand tu regardes au niveau de l'histoire, ils sont pas au même endroit. Par rapport au début de la troisième mini, donc la troisième mini qui s'appelle Treachery, là ils sont revenus dans la ville principale,
donc
qui est censé être un havre de paix.
Dans les premiers épisodes,
et c'est vachement plus sombre.
Je me rappelais pas que le ciel était si bleu, quoi. Enfin, c'était si clair. Je me suis dit déjà en ouvrant cette troisième mini, je me suis dit, je pense qu'il va se passer quelque chose, que le ton va changer, qu'il y a des personnages qui vont voler, parce que déjà on a une rupture graphique. Enfin, une rupture visuelle, en tout cas, au niveau des couleurs.
Alors, moi, je vais... de toute façon, on y va. Hein. j'aime beaucoup. C'est magnifique, vraiment, les illustrations. Mais pour moi, ce sont des illustrations. Ce n'est pas un comics avec un certain travail qui a pu être fait sur l'agencement des cases, des choses comme ça.
Ah, je veux dire,
c'est magnifique à avoir un poster d'une splash page là sur ton mur, mais toutes les trois pages à avoir de l'illustration comme ça, ça n'aide pas, je trouve, pour en faire vraiment un vrai comics, quoi. Là, pour moi, c'est on a mis des belles images pour amener du monde. Alors c'est magnifique, mais ça. C'est encore un point négatif entre guillemets pour qui a fait que je ne suis vraiment pas rentrée dans le comics, quoi.
Je pense que là on est clairement dans l'adaptation de roman. Le roman, c'est toi qui te fais tes images et là il n'y a pas de storytelling à proprement parler. Si tu regardes les cases, tu comprends pas forcément le sens de l'action. Il te faut le texte. Il te faut le texte pour que tu comprennes où les choses avancent. Et c'est tel un roman, quoi. Et je trouve que ça remplit bien cette adaptation d'univers littéraire, finalement.
D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Steve ?
Dans l'ensemble, j'ai franchement beaucoup aimé, et j'ai envie de lire la suite. Donc déjà, c'est que ça m'a plu. Sinon,
j'aurais pas du tout envie,
quoi.
Je dirais pas la suite. Hein.
Non,
ça m'a plu. Alors, il y a des choses qui m'ont déplu dedans. Par exemple, puisqu'on est sur l'histoire du storytelling, du graphisme par rapport au passage de texte, la bataille contre les loups à la fin de la deuxième mini m'a vraiment vraiment déplu. C'est quelque chose qui, je pense, aurait été beaucoup plus magique sans images. Pour moi, c'est quelque chose qui passait mieux en roman, parce que là, avec les images, je trouvais que la bataille tombait un peu à plat. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi.
D'accord.
Mais après, dans l'ensemble, peut-être pour moi le plus gros défaut de cette histoire, c'est son trop gros rapprochement avec le Seigneur des Anneaux.
Non, moi, je trouve ça complètement différent. Hein.
Ah, j'ai tellement l'impression de revoir le Seigneur des Anneaux, ça me...
Bah, il s'en est jamais caché, hein. Stephen King, il a toujours dit qu'il s'était énormément inspiré de l'univers de Tolkien, etc.
C'est-à-dire qu'on a ce groupe qui est de Roland, Alain et Cuthbert, qui sont pour moi les Hobbits. Et Roland qui trouve cette sphère, qui est ni plus ni moins qu'une version de l'anneau, à laquelle il est attiré, il voit le méchant Crimson King, qui est Sauron. Enfin,
et puis il y a une sorte de globe aussi dans le Seigneur des Anneaux, à un moment.
Ouais.
Oui, l'œil de Sauron.
L'œil de Sauron, ouais. Et j'ai vraiment cette impression de, de Seigneur des Anneaux bis. Alors, dans un autre univers, hein, c'est pas du tout le même background, mais ça m'a tellement fait penser à ça que ça a été difficile pour moi de m'en dégager de l'idée. Alors, bon, c'est pas pour autant que je trouve que le truc est un Seigneur des Anneaux rip-off au rabais, quoi. Mais c'est peut-être un peu trop présent, à mon avis.
Bah, ça, je veux dire, c'est uniquement dans le comics.
D'accord.
Dans les romans, cette histoire de sphère, de la sphère de Merlin, comme c'est son nom, il me semble.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, ça a une toute petite part, quoi. C'est pas.
Alors que là, c'est pas
le truc super important.
Oh, oui,
c'est important, mais alors, je vais vous dire, c'est important uniquement dans les trois premiers tomes.
D'accord, parce que tu vois, moi, ce qui se dégageait pour moi de cette histoire, c'est qu'ils en ont récupéré une. On sait qu'il y en a 12. Et je m'attendais à ce qu'ils essayent d'aller récupérer les autres.
Bah non, parce que en fait, les autres sont appartiennent au Crimson King.
Mais quand tu regardes, il en a toujours que 7. Il lui en manque 5.
Oui, il y en a d'autres qui sont éparpillés, et ça, en fait, ça va. Il y en a certaines qui vont être récupérées dans le roman.
D'accord. C'est vrai que comme on voit sa jeunesse.
Voilà. Là, on voit que sa jeunesse. On voit ses 4 ou 5 premières années, je crois. C'est.
Alors que dans le roman. Non, dans les trois premières mini qu'on a lues, là, c'est
la même année.
Oui, c'est la même année, oui. Ouais, c'est la même année sur les trois premières. Alors que dans le roman, on démarre tout de suite avec un mec qui a 60 ou 70 ans.
Ah ouais.
Oui, dans le roman, il est en fin de vie, le gars, quoi. C'est un pistolero qui a tout vu, qui a tout vécu et qui est sur le déclin.
D'accord.
Et là, justement, on s'attaque vraiment à sa jeunesse, à comprendre comment il en est arrivé là. Et tout à l'heure, on parlait de l'équipe graphique. Je voulais juste signaler que sur les cinq premières mini, donc effectivement, c'est J.D. et Richard Dizanoff au dessin. Par contre, à partir du deuxième grand arc, on va dire, on change d'équipe de dessin, pas entièrement. Richard Dizanoff reste à la colorisation, mais sur la première mini, le Gunslinger Journey Begin, c'est Sean Phillips.
Ouais, c'est, j'avais vu ça.
C'est radicalement différent, je pense, dans le style.
Ouais. Et sur le Little Sisters of Eluria et sur la suite, sur la nouvelle également qui va démarrer bientôt, c'est Luke Ross.
Luke Ross, ah tiens.
Mais toujours Peter David et Robin Firth au scénario et Richard Asimov à l'ancrage derrière.
Autre chose qui a fait que j'ai pas accroché, honnêtement, c'est les personnages féminins. C'est-à-dire que il y avait pour moi aucun personnage féminin vraiment fort. Et dans la façon dont la série est faite, à un moment j'y ai cru et en fait non. Donc ça n'a pas aidé. Mais je préfère pas en parler parce que pour les gens qui ont envie de lire, j'ai pas envie de les spoiler. Donc voilà, non, je en tant que fille, tu vois, j'ai pas réussi du tout à avoir une certaine identification. Enfin, de toute façon, le personnage principal pour moi est voilà, il m'intéresse pas. Et du coup, tu sais quand tu vois voilà, tu as eu différentes femmes, alors soit elles sont méchante, soit c'est des objets sexuels, sinon il y a rien quoi. Enfin, et c'est vrai que ça aide pas non plus quoi quand t'es une fille.
Dans le troisième, dans Entrée de Chérie, ça commence et ça s'accentue par la suite.
D'accord, parce que là c'est vrai que
c'est le personnage d'Aileen, tu veux dire ?
Oui, tout à fait. Mais bon, justement, c'est le principe du truc, c'est que c'est un univers. Il a créé un univers qui est très masculin. C'est-à-dire, c'est que les hommes qui ont le pouvoir, c'est que les hommes qui défendent, c'est que les hommes qui font tout. Et justement, le personnage de Aileen va remettre ça un peu en question et va montrer que les femmes également peuvent faire des choses.
Mais c'est ça justement, c'est ce que je disais.
Dans une société fantasy, une société patriarcale.
Mais c'est ce que je disais à Steve justement quand il me disait c'est patriarcal, nanana. Je dis oui, mais bon, dans tout bon bouquin de fantasy, il y a toujours la nana qui veut pas faire les choses comme il faut et hop et devoir attendre. Eh ben oui, mais honnêtement, si j'avais pas dû lire la série les trois premières, moi j'aurais lu la première mini, j'aurais jamais été plus loin parce que j'ai pas accroché déjà à la première par l'ambiance qui a été posée. Donc quelqu'un qui n'accroche pas la première, puis la deuxième, puis te dire faut attendre la troisième pour avoir un personnage féminin qui prend un petit peu d'importance, moi j'avais déjà décroché avant, tu vois.
Ouais. Je sais, je peux le comprendre.
Puis franchement, après... sur le personnage d'Aileen qu'on a évoqué, c'est vrai que dans l'épisode où elle est introduite, dans le deuxième ou troisième épisode de la troisième mini-série, on a l'impression qu'enfin on va avoir un personnage féminin qui, voilà, qui va un peu bousculer les choses. Et tout de suite, elle se transforme en, je dirais, intérêt amoureux pour le
c'est
personnage
ça, ouais.
de Roland.
La, bonne, la nana
elle
à
se,
marier,
voilà, elle se pavoise devant lui et j'ai l'impression, tout d'un coup, de plus voir la même personne. Donc,
ouais.
C'était vraiment étrange.
Mais son personnage va être développé un peu plus. Je vais pas mentir, je vais pas dire que ça va devenir un personnage hyper important, parce que ce serait totalement faux. Les trois personnages importants, bah, c'est les trois compères du début. Mmh.
Roland, voilà. Alain et Cuthbert.
Voilà, c'est eux les personnages primordiaux du comics. Par contre, elle va avoir son importance. Et dans les romans également, les femmes ont une part beaucoup plus importante que dans le comics.
Tu vois, la relation Alain et Cuthbert me fait aussi penser à la relation Mary et Pippin.
Oui, tout à fait. Maintenant que t'en parles, j'avais pas fait le rapprochement, mais tout à l'heure quand t'as parlé du Seigneur des Anneaux, c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes.
Mais... Bon, après on aime ou on n'aime pas. Après tout, on sait très bien que Le Seigneur des Anneaux est quand même la plus grande inspiration fantasy.
Oui.
Donc c'est normal. Et puis sachant que c'est quelque chose qui date des années 70, la fantasy a toujours existé, bien sûr, mais il y a eu un énorme regain pour la fantasy à partir du moment où on a eu des jeux de rôle, et notamment l'arrivée des gros blockbusters tels Donjons et Dragons, et donc plutôt des fin des années 70, début des années 80. La grosse inspiration avant, c'était Conan ou Le Seigneur des Anneaux.
Ouais.
Ouais.
Donc tu pouvais tomber que dans deux grosses possibilités, quoi. Il a choisi Le Seigneur des Anneaux, il aurait très bien pu choisir Conan.
Ouais.
Oui, okay, trop
blanc.
Non, mais... Oui.
Bon. On va peut-être parler un petit peu de l'édition aussi. Et notamment l'édition française... puisque bon, on en parle aussi à l'occasion de la sortie du 9e tome en France. Alors oui, vous dites, on parle de trois mini-séries que l'on a lues, 9e tome en France.
Eh oui.
Eh bien oui.
Vive la France.
On va parler d'édition française. C'est publié chez Panini Comics sous le label Fusion. Et, bah, autant le dire clairement, c'est une arnaque pure et simple.
Ouais.
C'est-à-dire que pour trois mini-séries, une première en 7, une deuxième en 5, une troisième en 6, donc un total de 18 épisodes, on se retrouve avec 8 bouquins, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et surtout quand on voit le prix des bouquins, puisque chaque bouquin est à 14,95.
Ouais.
C'est pour ça qu'on l'a lu en VO.
Ah bah oui, on l'a clairement lu en VO.
Ah bah oui, c'est
parce
clair.
Qu'on n'aurait pas eu les moyens de se retaper les...
Non, c'est clair.
Beaucoup, beaucoup trop cher. Alors oui, l'édition est belle, mais 72 pages pour 14,95€. Ça fait quand même cher payé.
C'est clair.
Sachant que nous disait que voilà, nous on l'a lu en VO, c'est rassemblé par mini-série. Hein.
Oui, voilà, c'est
plus, ouais. Plus, mais...
t'as pas deux épisodes.
C'est-à-dire voilà. Que par exemple pour la première mini, Gunslinger Born, elle est publiée en trois tomes. Dans le premier tome, on a trois épisodes. Dans le tome 2, on en a deux. Et dans le tome 3, on en a deux. Ouais. Pareil pour la mini Treachery. La mini Treachery, ouais. On a deux épisodes par tome. Et comble du comble, la deuxième mini, Long Road Home. Est publié en deux bouquins, mais l'épisode 3 est coupé en deux.
Ouais, c'est assez scandaleux.
Mais par contre, à savoir que c'est quand même du très, on va dire du, faut avoir un très bon niveau d'anglais pour le lire
pour
en
le lire.
VO.
Ouais. Alors moi, vraiment. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le seul point noir que j'apporterai à ce comics, c'est que pour le lire, voilà, comme disait Claire, il faut avoir un super niveau d'anglais parce que c'est beaucoup d'argot. Beaucoup de vieil anglais, de langage très soutenu.
D'où ta référence à Shakespeare, Claire?
Non, pas forcément. C'est pas tant ça. Moi, c'est vraiment au niveau de l'histoire, hein, avec tout ce qui est meurtre, patriarcal, tout ça, machin. Là, c'est plus ça, moi, qui me faisait penser à Shakespeare. Bien sûr, il y a les îles, les machins comme ça, mais ça, on peut le trouver ailleurs. On peut le trouver ailleurs. Je veux dire, non, c'était plus au niveau du scénario. Oui, voilà, exactement.
Donc, puisque c'est la saison.
Voilà. Donc oui, non, c'est vrai que c'était un niveau vraiment...
Voilà, mais il faut savoir que dans le roman, c'est également la même chose. Il a développé un langage aussi propre à ce monde, des expressions également propres à cet univers, qui ont été retranscrits dans le comics et qui forcément t'obligent à lire 2-3 fois la phrase avant de la comprendre complètement, quoi. Et encore, t'es pas sûr de l'avoir bien comprise.
Ouais, puis il y a des concepts, genre le concept de K, par exemple. Enfin, ouais. C'est des choses à comprendre.
Voilà, il a inventé vraiment une mythologie, un langage propre à l'univers que tu comprends très bien en lisant les bouquins. Il n'y a pas de souci.
Ah oui.
Mais en lisant le comics, même moi qui avais lu les bouquins avant, il y a certains passages que j'ai dû relire plusieurs fois parce que je comprenais pas forcément ce qu'il voulait dire par là, quoi.
Ouais, non, c'est pas facile.
Non, mais là, on a un désaccord quand même de fond sur la série.
Alors,
là,
après...
c'est vraiment une histoire de goût parce que là, on a quand même un 55-51 sur la série.
Après, ouais. Est-ce que tu connais des personnes qui ont aimé le livre, mais qui n'ont pas aimé l'adaptation en comics?
Alors moi, je connais une personne qui a adoré le bouquin et en fait qui a lu la première mini, donc c'est Gunslinger Born, et qui n'a pas aimé parce que justement la première mini, c'est une adaptation littérale du bouquin.
D'accord.
Et il s'est dit, si c'est pour relire en comics ou en BD ce que j'ai déjà lu dans le bouquin, ça vaut pas le coup.
C'est clair.
Et je lui ai dit, ouais, mais continue, parce qu'après, t'apprends des trucs que t'as pas appris dans le bouquin. Mais c'est, disons que la première mini rebute un peu à ceux qui ont déjà lu le bouquin, parce que t'apprends rien, en fait. C'est comme si tu lisais Le Seigneur des Anneaux adapté en comics, quoi.
Oh ouais, je vois tout à fait. Bah, non, mais c'est normal.
Voilà.
Donc nous, en fait, tout ce qu'on lit, là, ça a déjà, quand tu dis la première mini,
Les sept premiers.
Non, mais c'est avec ce que t'as expliqué, le fait qu'il y avait 5 mini dans le premier arc et tout machin. Donc, ouais. D'accord.
La première mini, uniquement le Gunslinger Born, donc qui est sorti en les 3 premiers tomes français, c'est l'adaptation graphique du roman Magie et Cristal, donc du 4e tome de La Tour Sombre en roman.
D'accord.
Et pourquoi ça n'a pas commencé au début? Pourquoi avec le 4e?
Bah parce que en fait il voulait justement en fait dans le bouquin donc comme je l'ai dit ça se passe dans le futur ça se passe quand Roland a 70-80 ans un truc comme ça et il raconte en fait à ses compagnons de route cet épisode là donc cet épisode où il va à Mégis où il rencontre son amour de toujours Suzanne et il raconte justement il raconte ça et après c'est tout, on sait pas ce qui s'est passé entre la fin de Gunslinger Born jusqu'à le début des romans. Et donc ils ont voulu, chose qui est vraiment bien dans le comics, raconter ces 40 ans qui se passent, la chute de Gilead, comment il est devenu tout seul, comment il en est venu à poursuivre cet homme en noir. Ils racontent vraiment tout ça dans le comics. Parce que dans le bouquin, c'est juste évoqué. On sait que Gilead est tombé, on sait que les autres sont morts. Mais voilà, on sait pas comment ils sont morts, on sait pas comment Gilead est tombé, on sait pas comment le monde, alors qu'avant c'était le monde des bisounours, comment c'est devenu l'enfer, quoi.
Ouais.
Enfin, il m'avait pas l'air si bisounours que ça, le monde, déjà.
Non, mais quand tu vois Gilead, c'est il fait
un monde prospère et riche.
Voilà. Ils vont faire la guerre de temps en temps, mais ils gagnent toujours.
Ouais, mais j'ai l'impression. Dans le comic, on avait l'impression, voilà, que Gilead était un monde très prospère, enfin une ville très prospère avec des champs, enfin vraiment la terre comme on la connaît. Par contre, dès qu'on sort de la cité, j'ai un peu l'impression que c'est un monde espèce de monde post-apocalyptique.
Voilà, ça
avec
commence.
Des démons à tous les coins de rue.
Ça commence à cette époque-là, à l'époque du comic, le monde commence déjà à tourner.
Mais pour moi, c'est le Mad Max du Seigneur des Anneaux, quoi.
Ouais,
c'est un mélange entre les deux, quoi.
C'est pas faux.
C'est-à-dire qu'on a ce côté post-apo très Mad Maxien, et puis on a le côté quête fantasy, se débarrasser du représentant du mal, voilà. C'est un mélange entre les deux, quoi.
Moi, je dis quand même que commencer quand Roland était âgé, ça aurait peut-être été une meilleure idée, parce que franchement, moi, le gamin, mais il est insupportable.
Tu ouais. as Si tu veux commencer ce qui est âgé, tu as les romans pour ça.
Oui.
Mais je veux dire, ça aurait peut-être permis de mieux rentrer, de mieux s'apprécier les personnages, parce que moi, franchement, j'ai pas du tout aimé les personnages.
Mais disons qu'à la base, le comics a été fait pour les lecteurs.
Ouais, mais ça, je pense que ça se sent quand même. Hein.
Ouais.
Ouais.
Ça a été fait pour les lecteurs, ça a été fait pour justement connaître des choses que tu ne connais pas en lisant les romans.
D'ailleurs, il y a des choses très intéressantes dans les singles, choses qu'on n'a pas forcément dans les hardcovers,
Ouais.
mais dans chaque single, à la fin, on a des articles faits par Robin Firth qui te racontent des choses sur le passé du monde, sur la lignée des Elds, sur beaucoup, beaucoup de trucs qui permettent de se mettre dans le background. Alors,
bah, bon, qui développe, ouais.
Je vais être honnête, j'ai pas eu le temps de les lire. Parce que c'est très, très
moi, bon.
Moi, j'ai pas voulu les lire parce que déjà, le comics en lui-même, ça me gonflait. Donc, me taper
j'en ai,
en plus.
J'en ai lu certains. J'en ai lu d'autres en diagonale et il y en a certains, j'ai carrément zappé parce que, par manque de temps, quoi.
Voilà, il y en a un qui va raconter l'histoire des sphères, justement. Il y en a un qui y a un backup qui va raconter l'histoire de la lignée d'Eld. Voilà, c'est
les aventures d'Arthur, le premier voilà. Gunslinger, etc. C'est peut-être aussi ça un autre petit truc qui me dérange un peu, c'est de lier tout ça avec le mythe arthurien.
Ouais.
C'est un classique hein, de la littérature SF, donc de la littérature fantasy, d'avoir le grand ancêtre super héroïque, que ce soit Arthur ou un autre. C'est toujours une figure arthurienne, de toute façon. Donc,
Bah là, c'est clairement Arthur. Enfin, je veux dire,
oui,
c'est
oui,
clairement
ça, on
Arthur. Je veux dire qu'il y a dans les mains Excalibur et deux flingues.
Oui.
Voilà. Enfin, là, le parallèle est facilement faisable. Il y a quand même quelque chose qui est assez étrange. C'est cette fameuse tour sombre, quand même.
Ouais.
Dans la façon dont tu l'as décrit au début, Nono, me semblait pas être ça quand je l'ai lu dans les romans et avec un petit peu des backups. J'avais l'impression que c'était une sorte de nexus des réalités qui ouvrait des portes sur le multivers.
C'est ça, mais c'est également le pilier central de tous les univers. C'est-à-dire que si la tour sombre s'effondre, tous les univers s'effondrent. Donc quand je dis tous les univers, c'est l'univers du roman, du comics, mais également le nôtre. Parce que les bouquins font le parallèle avec notre univers et il y a des incursions dans notre réalité des personnages de la Tour Sombre et également des personnages de notre univers qui vont dans l'univers de la Tour Sombre.
Uh-huh.
Donc la Tour Sombre en fait c'est vraiment le pilier central. Effectivement tu as des portes pour aller dans les autres univers, mais c'est-à-dire la Tour Sombre en fait supporte tous les univers à travers les rayons. Donc ça, il me semble que c'est expliqué.
Oui, les rayons, ouais, avec voilà. les animaux, là, les 12...
Les 12 gardiens, donc ouais, t'as 6 rayons, un animal gardien au bout de chaque rayon, et quand un rayon tombe, c'est les univers qui sont rattachés à ce rayon qui tombent avec eux. Et en fait, l'univers de la Tour Sombre et notre univers sont tous les deux à une extrémité du même rayon. Et dans les romans, il ne reste plus que ce rayon-là. Tous les autres sont déjà tombés, et donc Roland est obligé de faire le parallèle entre son monde à lui, donc le monde de Gilead, etc., et notre monde à nous. Et s'il veut sauver son univers, il est obligé de sauver le nôtre en même temps.
Moi, je trouve que dans les trois séries, là, les trois mini que j'ai lues, ça s'appelle la Tour Sombre, mais honnêtement, c'est bizarrement, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette tour, justement, dans ce que j'ai lu.
Non, parce qu'à l'époque où le comics se passe, il n'a pas encore compris l'importance de cette tour sombre. Il n'est pas encore au courant de ses rayons. Pour lui, ses rayons, ses animaux gardiens, font partie de la légende.
Ouais, c'est du folklore, quoi.
Ça lui est expliqué dans un backup. On voit qu'il y a son professeur de philosophie qui lui en parle et qu'il est déjà bien au courant des rayons, quoi.
Voilà, il est au courant, mais pour lui, voilà, c'est comme nous, on a le Père Noël, lui, il a la tour sombre. Quoi.
Mais par contre, à la fin de la troisième, il a déjà compris, je pense, à la fin de la troisième ligne.
Oui, on sent que ça commence à venir, mais.
Oui, parce qu'il est parti dans le rêve. Il a enfin, tout le deuxième épisode de Long Road Home, en fait, Roland est dans la sphère. Il est tombé dans la sphère, donc il est dans une espèce de rêve, et là, il apprend énormément de choses. Il rencontre The Crimson King, il rencontre tous les méchants, etc. Et là, il comprend que tout le folklore qu'on lui a enseigné depuis qu'il est gamin, en fait, c'est vrai. Et que s'il y a rien qui se fait, dans pas longtemps, leur monde va se casser la gueule, quoi.
Alors moi, justement, toute la partie rêve dans la sphère et tout, c'est quelque chose qui m'a particulièrement embêté, pour pas dire plus. Mais vraiment, c'est une partie du roman. Quand j'ai vu que ça partait là-dedans, je me suis dit... Oh là là, super. Déjà, c'était pas bien avant, mais alors là...
Ouais. Bon. Ça, c'est dit, voilà.
Non mais franchement, ce qui m'a moi le plus ennuyé, c'était vraiment la longueur. Je me dis ça va durer un épisode et au bout de 5, on le voit toujours qu'il est toujours dans la sphère, ça dure et ça dure. Et...
Mais parce que c'est hyper important ce qui se passe dans cette sphère. Pour la suite, hein, je parle pas on s'en rend pas forcément compte quand on lit cette mini là, mais pour la suite, en fait, ce passage dans la sphère va déterminer tout son avenir.
Ainsi que l'avenir d'Alain et Cuthbert.
Voilà, également.
Parce que là, ils gagnent réellement leur galon. On les voit agir en solo et on voit qu'ils sont pas des incapables.
Ah oui, mais
parce qu'ils sont toujours, ils sont toujours rabaissés en quelque sorte.
C'est pas parce que c'est fait en 5 épisodes que ça devrait être plus important. C'est juste long, hein, franchement.
Ah, moi, j'ai pas trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, il y a toute la mythologie se met en place à ce moment-là, en fait.
Moi, ce qui m'a dérangé, tu vois, dans cette mini, c'est plutôt le passage avec les robots. Ça m'a franchement fait chier.
Avec Chimie?
Oui.
Ah oui.
Ouais, mais disons que...
Encore, je me suis dit, oui, je me souviens. Dans un livre de Stephen King, un attardé mental qui se retrouve avec des super pouvoirs.
Oui, mais cet attardé mental, justement, c'est le même.
Comment c'est le même dans toutes les séries de Stephen King?
Quasiment. Ouais. Dans c'est Dreamcatcher, il me semble, de Stephen King, c'est le même bonhomme. C'est là qu'il a tout articulé, tous ses romans autour de la Tour Sombre.
Alors moi je vais soumettre une hypothèse, mais pourquoi a-t-il bossé chez Marvel? Pourquoi il n'a pas bossé chez DC? C'est quand même plus leur credo, les multivers et les versions des mêmes personnages dans différents univers.
Ouais, bah ça, je lui demanderai la prochaine fois que je l'ai au téléphone.
C'est vrai qu'on doit à tout le monde au téléphone.
Une voilà. Suggestion, ce ne serait pas pour des raisons pécuniaires?
Non, certainement, c'est voilà.
Ah mais c'est vrai que je trouve que ça aurait été mieux venu chez DC, bon même si DC n'a pas cette ligne-là, quoique il a déjà bossé chez DC, hein, puisque je crois qu'il avait déjà fait des choses chez Vertigo, Stephen King. Oui.
Bah, déjà,
il a bossé récemment sur American Vampire.
Oui aussi. Donc, mais enfin, je sais pas. Moi, j'aurais plus vu ça dans l'univers de DC, quoi. C'était plus le multivers comme ça. Pour moi, c'est tout de suite DC, quoi.
Ouais.
Bon, là, c'est pas grave.
Disons que le comics ne parle pas vraiment de ce multivers.
Non, c'est vrai.
Pas du tout, même.
On l'évoque.
Non, du tout.
Donc, Dark Tower, on pensait en fait jusqu'à maintenant que voilà, c'était fini, les romans étaient finis. Il a mis plus de 20 ans à écrire ses 7 bouquins. Tout à l'heure,
entre le 3 et le 4. Voilà.
Début du podcast, tu me demandais, Steve, de raconter un peu comment s'était passé l'écriture. Il a sorti les 4 bouquins en 10 ans de temps, les 4 premiers tomes jusqu'à Magie et Cristal. Mm-hmm. Il les a sortis en 10 ans de temps, on va dire, j'ai plus les dates exactes en tête, mais ça a été assez rapide. Et après, il l'a laissé un peu de côté. Il recevait énormément de lettres de fans en demandant la suite. D'ailleurs, dans ses bouquins, dans ses éditos, dans ses postfaces, il y avait une anecdote qui était assez marrante. Il avait reçu un ours en peluche avec un écriteau dessus, une photo d'ours en peluche avec un écriteau dessus. C'était marqué « Si tu racontes pas la suite, je tue l'ours ». Il avait reçu une lettre qui l'avait beaucoup touché d'une mamie qui était en phase terminale d'un cancer et qui voulait absolument la suite avant de mourir. Elle voulait connaître la suite du bouquin, la fin de la Tour Sombre, avant de passer l'arme à gauche. Et voilà, lui, il se sentait pas de l'écrire, il arrivait pas à écrire. Et au début des années 2000, il a eu un énorme accident, il s'est fait renverser par une bagnole. Et il est resté un bout de temps dans le coma. Et quand il est sorti de son coma, il s'est dit « Merde, ça serait con que je claque et que j'ai pas fini la Tour ». Et donc il a sorti les 5 derniers tomes, non attends, les 3 derniers tomes en 3 ans de temps, quoi. Il a plus écrit que ça. Donc maintenant la Tour Sombre est finie depuis 2005, 2006, un truc comme ça. Et là on vient d'apprendre, il y a un mois ou deux, que en 2012 il sortirait le 8e tome. Donc on pensait que c'était fini, on pensait qu'il avait, voilà, de toute façon l'histoire est finie, l'histoire en elle-même est finie. Mais il va sortir un 8e tome. Donc pour l'instant on sait pas de quoi ça parle, on sait pas s'il va reprendre l'histoire de Roland, on sait rien du tout, ça va toujours être dans l'univers de la Tour Sombre, mais on n'en sait pas plus. Donc ça c'est pour les bouquins. Maintenant, le comics. Donc là, on atteint le dernier épisode de la deuxième mini-série du deuxième arc. Vous avez suivi ?
Oui, ça y est, oui.
Voilà. Donc là, vient de sortir. Il y a une nouvelle. Donc là, cette mini-série s'appelle Little Sisters of Elluria. La troisième mini-série donc, du deuxième arc s'appelle Battle of Tul, T-U-2-L. Ça va démarrer très prochainement. Donc le comic, c'est pas prêt de s'arrêter, en fait. Il y a rien qui dit, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce de fin. Il continue comme ça. Je connais absolument pas les chiffres de vente, Sam. Je sais pas si tu les vois passer.
Pas en single. Je les ai pas vus récemment. Mais je sais que les premiers TPB, je viens notamment des chiffres du premier, ça s'était vendu, mais à des niveaux assez stratosphériques. Je crois que le premier TPB s'était vendu à plus de 200 000 exemplaires.
Ah, mais c'est pas étonnant.
Donc pour des TPB, c'est vraiment énorme, hein, parce qu'en général.
Hardcover. Parce que les TPB sortent seulement maintenant. Ouais.
Donc pour vous donner un exemple d'échelle, on considère une bonne vente de hardcover ou TPB à partir de 10 000 exemplaires.
Ouais.
On considère que c'est déjà une très très bonne vente. Donc 200 000, c'est une limite historique, quoi.
Ouais. Donc les hardcovers sont sortis sur toutes les mini du premier arc. Les hardcovers sont sortis. Le premier hardcover de la première mini du deuxième arc est sorti également, et celui de Little Sisters of Elluria sort au mois de juin, le hardcover. Et au niveau TP en anglais, il y a que les trois premières mini qui sont sorties en TP.
Mais ils ont capitalisé sur les hardcovers, mais c'est un format qui sied quand même vachement mieux, je trouve. Par rapport au design dans l'ensemble de la mini-série, quoi.
Oui. Enfin, début de la série, pardon. Ça correspond tout à fait, oui.
Donc ensuite,
juste pour terminer, le hardcover a un petit côté roman aussi, oui. Qui fait que sur une étagère, le parallèle entre les deux médias se fait plus facilement.
Ah, moi j'adore. C'est les premiers, quand j'ai emménagé, c'est les premiers que j'ai placés, mes hardcovers de Dark Tower.
Après, photo, ensuite, regardez.
Ensuite, tu as rangé ta collection autour pour que ce soit central.
Et en fait, ce qui est très sympa et chose que j'ai pas vu beaucoup, là pour une fois, je salue l'initiative française, c'est que sur les romans qui ont été réédités chez Albin Michel de mémoire, en fait, toutes les tranches forment un panorama.
D'accord.
Donc dans une bibliothèque, c'est super chouette, super joli, etc. Malheureusement, c'est épuisé. Et bon, j'ai également une espèce d'omnibus où il y a les sept volumes du roman qui ont été séparés en deux omnibus.
En plus, c'est pas des petits romans, quoi. C'est pas du roman de 150 pages, quoi.
Non, non. Et ça, c'est pareil. Ça trône sur mon bureau. Quand je dis que je suis un fanboy, je suis un fanboy.
C'est ça, le fanboy, quoi. Voilà. Donc ça va, c'était pas trop dur de nous entendre descendre ton.
Non, mais comme je te disais en off, je peux comprendre. Clairement, on n'aime pas cette série. Je peux le comprendre, mais à 100%.
Claire te posait la question tout à l'heure de gens qui n'avaient pas aimé le roman et qui avaient aimé qui avaient aimé le roman et qui n'avaient pas aimé le comics. Mais connaîtrais-tu des gens qui ont aimé le comics et qui n'aiment pas le roman ?
Non, parce que je connais pas grand monde à part Claire qui n'aime pas ce genre. Bah, je connais, non, parce que Claire ne l'a pas lu, donc je peux pas dire ça. Je reprends. Je ne connais pas grand monde, je ne connais même personne qui n'ait pas lu La Tour Sombre et qui n'ait pas aimé.
D'accord.
Parce qu'en général, tu vas tuer les autres. Hein,
voilà. Les autres sont...
Mais alors, tu vois, j'ai fait un effort pour lire le comics, hein, mais je ferai pas d'effort pour lire le roman.
Non, mais
désolée.
Mais je sais, on en avait déjà parlé, ouais. Tu m'as dit que tu n'aimais pas ce genre d'univers créé, etc. Et voilà, je peux comprendre. Simplement, méfie-toi à la Comic-Con.
Y aurait-il de la menace?
Non, mais on va faire mon comics aussi et tu pourras le descendre. Je suis sûre que tu n'aimeras pas, donc vu que d'accord. Ça a rien à voir avec la
fin. Déjà, moi, je peux dire que je le descendrai, je te vengerai, Nono.
Oui, parce que Steve n'aime pas du tout. Donc.
Et je voulais juste finir sur ce qui se passe autour de la Tour Sombre. Il y a 2 ou 3 ans, il y a Gigi Abrams qui avait racheté les droits pour l'adapter. Et récemment, il s'en est séparé parce qu'il a trop peur de rater le truc. Donc
il a surtout peur de lâcher le truc en plein milieu, parce que c'est sa spécialité quand même.
Ouais, également, je pense. Et en fait, Stephen King avait vendu les droits à
Ron Ward.
Non, mais à l'époque à Abrams, il les avait vendus pour $19.
Non.
Les droits sombres, parce que ceux qui ont lu les romans comprendront que le chiffre 19 est un chiffre extrêmement important dans la mythologie de la Tour Sombre et dans toute l'œuvre de Stephen King de toute façon. Ne me demandez pas pourquoi ce chiffre-là, j'en sais rien du tout. Et donc il avait vendu les droits de la Tour Sombre pour $19 à l'époque. Et là, il y a une news qui est passée il y a 15 jours, 3 semaines, plus longtemps à l'époque où vous écouterez ce podcast, mais courant avril, on a appris que c'était Ron Howard qui allait réaliser La Tour Sombre, ouais. Avec un format très spécial, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 films, et entre chaque film, une saison de série télé.
D'accord.
Oh, c'est risqué comme pari, c'est très risqué.
Ouais.
C'est extrêmement risqué, ouais. Et donc les romans vont être racontés en 3 films, et une saison entre chaque film, pour faire le lien.
À savoir qu'entre chaque épisode de série, il faudra aller lire le comic digital qui vous renverra sur une petite nouvelle à acheter et à lire, bien sûr, avant la semaine suivante.
Voilà. Et on a appris, là également au mois d'avril, que celui qui interprétera Roland est Javier Bardem.
D'accord.
Alors, je le dis tout de suite, je trouve ça minable. Je suis absolument contre ce choix d'acteur. Parce que tous ceux qui ont lu le bouquin et également la suite du premier arc, donc les nouvelles mini-séries qui sortent, qui se passent beaucoup plus tard, seront, je pense, d'accord avec moi que Roland Deschamps, c'est Clint Eastwood. Il n'y a pas d'autre acteur qui peut interpréter ce rôle-là, parce que le Stephen King a écrit ce personnage-là avec Clint Eastwood en tête, et quand tu vois Clint Eastwood vieux maintenant, donc le Clint Eastwood à l'heure actuelle,
aujourd'hui, ouais.
C'est exactement comme ça que tu imagines le personnage.
Ouais, mais justement, si ça part sur quand il a la quarantaine ou la cinquantaine, c'est plus difficile. Enfin, c'est... en même temps, c'est logique qu'ils aient pas pu prendre Clint Eastwood pour.
Oui, bien sûr, mais on ne sait pas encore en fait à quelle période les films vont se situer.
D'accord.
Je sais que j'avais entendu dire qu'ils allaient beaucoup servir du comics pour raconter des histoires, mais tel que tu le lis dans le bouquin. C'est Clint Eastwood, il n'y a pas d'autre... Voilà, c'est tout.
Je vais me permettre un petit wild guess comme ça. Je dirais que les films se baseront sur les romans et les saisons se baseront sur les comics.
Il y a des chances, ouais. Il y a des chances.
En tout cas, l'initiative est intéressante.
Oui, ça va être à suivre de très près. Là, on a annoncé le premier acteur, donc parce que Abrams, ça faisait un moment qu'il les avait, les droits, et ça faisait un moment qu'on attendait des news. Et là, enfin, on sent que ça se débloque. On sent que ça avance.
Donc ça va être un gros blockbuster qui va mettre la culture geek à la portée de tout le monde.
Voilà. C'est forcément bien, mais.
Ouais, on ne dira pas si c'est bien ou mal, mais voilà.
Voilà.
Avant de terminer, de vous laisser et que nous on aille au paquet à nos occupations du dimanche.
Manger.
Manger,
ouais.
Manger.
Moi aussi, j'ai très faim. Un dernier petit tour de table. Je vais commencer par Sam, qui n'a pas dit beaucoup de mots depuis un petit moment maintenant. Mm-hmm. Il est en train de...
Non, mais comme on parlait de l'actualité de la Tour Sombre et que moi je suis pas du tout, j'ai pas grand chose à dire.
Ton avis général, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé mon choix, qu'on a compris, mais est-ce que...
Je crois que j'ai été assez clair. Hein.
Donc tu me le recommande chaudement.
Oui, pour lui c'est un...
Nous feras-tu des unspoken des prochaines sorties VO?
Donc je vais le faire pour toutes les personnes que je n'aime pas, je vais l'offrir et...
As-tu envie de te mettre au roman?
Non.
Non plus. As-tu envie d'aller voir les films?
Non.
D'accord, donc c'est un pass pour Sam.
Total. Complet et total. Et j'espère qu'on en reparlera plus jamais.
Bah, on va voir les commentaires des auditeurs à mon avis.
Bon, Claire.
Bah, tout comme Sam, pareil moi. Donc voilà.
Nono.
Bah pareil, j'ai vraiment pas aimé. C'est vraiment un bouquin qui m'est passé au-dessus. J'ai rien compris. Je trouve ça inintéressant au possible. Non, bien sûr que non. Moi, c'est comme j'ai dit, c'est ce qui m'a amené au comics, c'est ce qui m'a amené à découvrir ce que Marvel faisait autre que ça. Comme je disais, le premier tome est le moins intéressant. La première mini plutôt est la moins intéressante de tous pour ceux qui ont déjà lu le bouquin. Maintenant, comme je disais également, je comprends qu'on puisse ne pas aimer parce que c'est un univers dans lequel il faut rentrer. C'est un univers qui est déjà établi depuis longtemps. C'est un langage soutenu, c'est un langage qui est pas compréhensible au premier abord, mais je pense que pour ceux qui ont lu La Tour Sombre, pour ceux qui ont aimé La Tour Sombre, ils aimeront également le comics. Ça, j'en mets ma main à couper. Comme pour reprendre une expression de La Tour Sombre, je parie ma montre et mon billet dessus. voilà, c'est pour moi c'est un must pour les fans de Stephen King, pour ceux qui aiment la fantasy, pour c'est un must have. J'y tenais beaucoup, ça faisait un moment que je voulais le faire en spécial. Ça faisait un moment que je gonflais avec ça également. Oui. Et je suis content qu'on l'ait fait, je suis content qu'on ait pu confronter nos avis, parce que c'est pas inintéressant. Comme je disais, hein, je comprends vos réticences. Y a aucun problème là-dessus.
Et moi, en même temps, je comprends que t'as apprécié aussi. Hein. Je veux dire, je vais pas dénigrer les gens qui aiment ça. Hein.
Moi aussi.
Non, mais voilà, c'est une très bonne adaptation de bouquin qui va au-delà du bouquin et qui transcende le bouquin. Donc, pour moi, c'est un bail tout court, un bail absolu.
Et toi, d'accord. Steve?
Ben, alors moi, La Tour Sombre, ça fait longtemps que je connais de nom, en tout cas. J'avais jamais sauté le pas de la lecture, parce que pour moi, Stephen King est plus un écrivain à suspense ou horrifique qu'un écrivain de fantasy, et j'avais peur de me faire chier, tout simplement. Et vu la taille des romans, j'avais pas envie de m'embarquer dans une lecture comme ça, sachant que j'avais plein de comics à lire. Voilà. Là, en l'ayant lu, eh ben, je vais me mettre au bouquin.
Ouais.
Oh, super.
Parce que j'ai envie de voir, et je vais continuer de lire, parce que ça m'a intéressé. Ça m'a vraiment intéressé. J'ai toujours été un gros fan de fantasy, et voilà.
Oui, je confirme.
J'ai fait du jeu de rôle pendant de nombreuses années. Voilà, c'est un univers qui me parle, quoi. C'est un univers qui me parle, et j'ai envie d'en savoir plus. Donc pour moi, ouais, c'est un bail, mais à un public ultra réservé. Voilà.
S'il devient un fanboy de La Tour Sombre, Nono, tu vas me le payer.
Et je me mettrai à porter des chapeaux. tel Roland.
Voilà.
On se vient de là, ma passion pour le chapeau. En fait.
Ça vient peut-être de là.
pour terminer, je vous citerai un SMS que m'envoyait Bunny, puisqu'il n'y a toujours pas de connexion, hein, qui me disait qu'il va essayer de se reconnecter plus tard, et que du coup, il va aller lire Dark Tower. Non, faut pas déconner non plus.
C'est bien, voilà. 3 contre 2.
Voilà.
Nous aurons quand même eu l'avis de Bunny dans ce podcast.
Donc finalement, c'est pas plus mal qu'il n'ait pas été là, comme ça, il y avait 50-50.
Ouais, tout à fait.
Bien sûr, j'ai mes petites réserves, hein, je les ai exprimées, mais voilà, ça m'intéresse quand même.
Ouais. C'est vrai que j'avais un peu peur quand j'ai commencé à quand Sam a commencé à me dire qu'il avait pas du tout aimé. Claire, je savais qu'elle allait pas aimer, de toute façon je savais avant même qu'elle me le dise. J'avais un peu peur de me retrouver tout seul contre vous trois ou vous quatre.
Je disais que c'était très long à lire, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a énormément de textes. Ouais. Et que bon, que ça m'ennuyait de les lire, tout simplement par manque de temps, quoi, parce que je savais que j'étais pressé, que j'allais être obligé de rusher à mort la lecture, et j'avais peur de pas l'apprécier parce que rusher, quoi. Et non, ça a été, j'ai réussi à trouver le temps. Donc, voilà. Ouais. Vive les jours de repos. Bien, eh bien, j'espère que nous vous aurons donné envie, ou pas, de vous mettre à La Tour Sombre.
J'espère que je ne vous aurai pas donné envie.
Non, mais
positionnez-vous par rapport à, voilà, ce que...
Oui, oui.
C'est véritablement
une histoire de goût personnel, là, ensuite.
Ouais.
Tout à fait, ouais.
C'est véritablement adapté à un public réservé, parce que voilà, ça pourra pas plaire à tout le monde, et surtout si vous vous y mettez en français, faites relativement attention, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Donc soyez bien sûr avant de vous lancer, notamment sur les versions françaises, parce que ça va vous faire claquer un max de fric, quoi.
Et puis si vous lancez dans les versions anglaises, soyez sûr également d'avoir le niveau requis, vraiment. Parce que ce serait vraiment con que vous achetiez des trucs et qu'au final vous comprendriez pas la moitié, quoi.
Il faut au moins un level 28 en compétences anglaises, hein, c'est clair.
C'est pas du Avengers, c'est pas de la littérature que tu lis aux toilettes, quoi.
Dire, oh. faut...
Là, non, mais j'en ai lu aussi aux toilettes, hein, je rassure.
Je pense que Claire, c'était plus pour l'idée de s'en servir comme papier.
Voilà. Non, quand même, pas
chez lui. Ah bon, moi, c'est déjà fait, hein.
Où il faut être posé, bon, tu me diras aux toilettes, en même temps t'es au calme et posé, mais voilà, faut être attentif. C'est pas un truc que tu lis sur un coin de table, quoi.
Non, c'est clair.
Bien, mais je crois que nous avons fait le tour.
Mm-hmm. Oui.
Vous voyez autre chose à rajouter?
Non.
Non.
Comment?
Kawabunga.
Ah oui.
Moi j'allais dire poète poète donc oui.
Voici les mots de la fin qui ne sont pas faits par Benny.
Mais on s'en fout puisque c'est moi qui écris ces textes.
C'est pareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On avait eu cette révélation monstrueuse. On se retrouve comme d'habitude sur Facebook, sur Twitter,
et puis
les commentaires, venez nous donner votre avis sur Dark Tower, si vous avez envie, vous y essayez, si vous aimez, si vous n'aimez pas aussi, ça nous intéresse.
Ouais.
Pourquoi vous n'aimez pas? Et puis, à très bientôt pour d'autres folles aventures dans le monde de Gilead ou ailleurs.
Et les Tortues Ninja.
Et pour un prochain spécial sur un titre, on va encore se déchirer.
Non, on verra. Honnêtement, on n'a pas encore choisi le thème. Hein.
Non, donc, non.
Mais c'est la discussion post-podcast qui ne sera pas enregistrée.
Voilà. Ouais. Nous allons avoir tout de suite.
Eh bien, à bientôt.
À bientôt, les enfants.
Bonne lecture.
Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit.